Xavier Accard, de l'Inde à la liturgie, en passant par René Guénon, sujet de votre thèse, au journal La Vie, tout un itinéraire, un mouvement dont vous dites vous-même « Peut-être oublions-nous que le sens profond du mouvement est celui d'un cheminement intérieur. » Alors racontez-nous, pourquoi l'Inde? Pourquoi René Guénon? Pourquoi La Vie? Quel est le fil rouge de tout ce parcours?
Le fil rouge, je dirais qu'il est profondément, simplement la quête de Dieu, mais peut-être avec une problématique particulière qui est la question de la transmission. Je suis né en 1971 et je suis un peu un enfant de mai 68. Alors tout naturellement s'est posé à moi la question de la transmission, de la tradition, qui n'est pas seulement un contenu, mais aussi une façon de recevoir et de transmettre. Et je crois que c'est ça qui est le fil rouge.
Pourquoi vous avez pensé à la transmission? Pourquoi cette transmission s'est-elle imposée à vous?
Eh bien, peut-être parce que je suis né dans une famille traditionnellement catholique. Et donc, quand on a une soif de Dieu, eh bien, on cherche à approfondir, on cherche à découvrir. Et ce n'est pas toujours facile quand on est dans une petite ville de province. En l'occurrence, c'était près de Nice, c'était un petit village. Voilà, et qu'on arrive un peu à une certaine maturité intellectuelle, enfin d'enfant, à un moment où on est dans les années d'après-concile. Voilà, où il y avait beaucoup d'ouverture et à la fois, il y avait aussi une déperdition de la transmission.
Alors, cette déperdition de la transmission que vous avez vécu de cette façon-là, vous a emmené en Inde?
Ce qui m'a emmené en Inde, en fait, c'est deux choses, mais c'est essentiellement en fait la découverte du père Henri Le Sault, qui était donc un moine de Sainte-Anne de Kergonan, qui est parti rejoindre le père Montchanin en Inde, après-guerre, en 1947, pour tenter en fait de développer une vie monastique chrétienne, mais avec des formes indiennes. Et en fait, il y a un très beau film qui a été fait sur sa vie, par Patrice Chagnard, et je l'ai découvert un jour dans une médiathèque, qui est le récit de son itinéraire spirituel, quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup frappé, parce que j'avais eu l'impression qu'il y avait quelque chose là qui résonnait de ce que je recherchais.
Vous êtes parti en Inde à la découverte du père Henri Le Sault et vous avez rencontré un homme bien vivant, le père Serra. Quel pont vous faites entre ces deux personnalités ?
Eh bien déjà, historiquement, c'est assez étonnant, mais le père Serac est arrivé en Inde avant Henri Le Sault. Il est arrivé en 1937 et il y est toujours aujourd'hui, ce qui est assez étonnant. Il est arrivé jeune jésuite. Et je crois, enfin c'est ce que m'a dit le père Serac, que Le Sault lui faisait un peu peur avec ses cheveux toujours en bataille. Il vivait comme un sannyasi avec son habit kavi.
Et vous avez eu la chance de rencontrer le père Serac?
Oui, j'ai eu la chance. En fait, j'étais donc enseignant au Loyola College où le père Serac vit. Et finalement, le père Serac, en dépit de sa notoriété, est assez isolé dans une communauté de jésuites indiens d'une autre génération, donc avec évidemment une perspective un peu différente. Mais c'est vrai que le compagnonnage avec le père Serac était magnifique. Le père Serac, c'est vraiment ce charisme de l'amour des plus pauvres. Et c'est vrai que le fréquenter, ça ouvre le cœur. En fait. Il a cette attention aux personnes. Il est contre finalement toute structure, toute organisation, ce que lui reprochent un petit peu d'ailleurs ses frères jésuites parfois. Il a une multiplicité d'œuvres qu'il confie ensuite à des laïcs indiens. Il n'a pas fondé d'une grande œuvre, disons, qui perdurera après sa mort, enfin même s'il y a une association du père Serac qui est très active et qui finance tous ses projets. Et puis c'est aussi une vie très drôle parfois, puisque sa chambre est en permanence assaillie par les mendiants. Alors on voit des têtes à travers sa fenêtre qui passent de temps en temps, des gens qui viennent frapper à sa porte. Alors le père Serac, parfois un peu excédé, mais évidemment toujours plein d'amour, sort et admonesse un petit peu ces foules qui rient parce qu'elles savent très bien que c'est un homme éminemment bon. Et puis alors régulièrement, ses supérieurs lui demande d'arrêter de donner de l'argent aux mendiants parce que ça attire évidemment des mendiants dans cette résidence de jésuites et ça trouble parfois un petit peu la paix de la résidence. Et une anecdote, il avait promis à son supérieur de ne plus donner d'argent aux mendiants. Puis ça le travaillait quand même beaucoup. Alors au bout d'un moment, il me dit « Xavier, j'ai promis à mon supérieur de ne plus donner d'argent aux mendiants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une pièce et puis avec les mendiants et puis moi, je te donnerai l'argent et toi, tu donneras l'argent aux mendiants. » Je pense que le problème en Occident finalement, où on a 1500 ans de christianisme, c'est que peut-être qu'on est tombé dans une certaine routine et que ce qui est fondamentalement extraordinaire, en particulier par exemple l'Eucharistie, qui est un miracle quotidien, eh bien est devenu à nos yeux banal, quelconque. Et le fait de prendre les lunettes peut-être d'une autre culture, d'un coup on retrouve les choses disons, avec un regard totalement neuf, avec une fraîcheur de rosée.
Est-ce que finalement cette routine dont vous parlez en Occident, qui peut-être parfois nous envahit, ne ressemble pas à cette pierre dont Jésus dit, quand il veut remettre Lazare debout, enlever la pierre? Et ce voyage en Inde, n'a-t-il pas été pour vous cette façon d'enlever une pierre pour retrouver la source?
Alors ça y a contribué, mais c'est vrai que je suis allé en Inde assez récemment puisque j'y ai enseigné donc de 2005 à 2006, puis je suis retourné en fait l'été dernier à Bénarès, et puis j'ai fait un reportage encore récemment là, à la Toussaint sur les persécutions des chrétiens en Inde. Et donc voilà, cette prise de connaissance de l'Inde, enfin réelle, s'est faite à un moment où j'avais déjà réapprofondi mon christianisme, retrouvé ce sens de la prière silencieuse du Carmel notamment, la prière des heures, voilà, où je m'étais réinscrit, et puis ce miracle, ce bonheur qui se trouve finalement dans l'ordinaire d'une vie de paroisse, tout simplement.
Mais vous l'avez retrouvé comment?
Un jour, j'ai découvert le monastère Sainte-Anne de Kergonan en Bretagne. Puis je suis retourné faire une retraite, parce que cette découverte de la vie bénédictine m'avait vraiment beaucoup touché. Me promenant dans les jardins de Sainte-Anne de Kergonan, j'ai réalisé que ce nom me disait quelque chose et que c'était tout simplement le monastère de Henri Le Sceau.
Un peu ces présences invisibles qui nous guident aussi pour aller vers l'essentiel.
Exactement. Je crois qu'en fait, c'est le langage naturel de Dieu. C'est coïncidence. C'est que dès que notre regard s'ouvre un petit peu, notre attention essentielle se développe et on remarque cette espèce de scintillement, de petit clin d'œil de la Providence.
Vous venez de publier un livre qui s'appelle Comprendre et vivre la liturgie. La liturgie n'est-il pas le langage de Dieu? Et vous essayez dans ce livre de dire, ben voilà comment Dieu nous parle.
Tout à fait. Je suis plutôt un amateur au sens étymologique, c'est-à-dire un amoureux de la liturgie. Et c'est vrai que j'ai mis, disons, mes capacités de recherche que j'ai acquis au cours d'études universitaires au service de cet amour. Mais je ne suis pas liturgiste de formation. Et d'ailleurs, c'était peut-être important aussi qu'un amateur et non pas un spécialiste fasse ce type de livre. Oui, en fait, j'ai été très frappé par une phrase de Jean-Paul II qui disait les pasteurs doivent retrouver le sens du sacré, je crois, et pour le transmettre, l'éveiller chez les fidèles, ils doivent retrouver ce que les pères de l'Église appelaient l'art de la mystagogie. La mystagogie, c'est-à-dire, finalement, c'est l'explication des mystères. Et c'est ce que j'ai voulu faire, en fait. C'est une petite mystagogie de poche, si j'ose dire, extrêmement simple et basique, mais pour faire rentrer, disons, le lecteur et les fidèles dans un mouvement d'approfondissement du langage liturgique. Parce que donc la tradition, ce n'est pas seulement un contenu, mais c'est aussi une façon de transmettre. Et il se trouve que nous sommes finalement des enfants de la modernité, nous avons beau être des chrétiens, mais nous sommes complètement baignés dans un milieu qui a perdu ce sens du symbole et du mystère. Alors que cette liturgie est née dans un contexte, justement, où les gens vivaient de ce sens du mystère, de ce langage symbolique. Donc j'ai voulu donner, en fait, aux chrétiens, à travers des petits chapitres très courts, sur à la fois des symboles, des rites annuels, sur le temps liturgique, sur des gestes aussi. Quelques clés, à la fois des clés scripturaires évidemment, puisque notre liturgie vient des écritures, mais aussi, induire chez le lecteur ce mouvement d'interprétation en fait, qui part du sens le plus littéral, du sens finalement naturel, cosmique, puisque le cosmos est le livre de Dieu, et puis qui ensuite approfondit en passant par le sens que les symboles trouvent dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, et puis chez les mystique qui vraiment tire de l'Ancien Testament le sens spirituel, le sens intérieur, puisque tout nous concerne intérieurement et que cette liturgie extérieure que nous vivons chaque dimanche et parfois en semaine a pour but de devenir intérieur pour faire de nous des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité.
On sent aussi qu'un de vos enjeux, c'est l'intériorité.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on est tous appelés à cette vie mystique. C'est la vie avec l'Esprit Saint. Père Marie-Eugène disait qu'il l'appelait ami et qu'il avait des raisons pour cela. Et je crois que voilà, nous sommes tous appelés à vivre sous la motion de l'Esprit Saint, dans une intimité comme ça, avec l'Esprit Saint, qui transfigure le monde, qui transfigure nos vies.
Quand vous étiez en Inde, vous aviez cette perception?
Ce qui est formidable en Inde, c'est que c'est un monde vivant. C'est vrai, quand on revient en Occident, on a l'impression parfois que tout est tellement rationalisé, hygiénique, net, qu'il y a quelque chose qui est un peu mort. Enfin, on bride tellement la vie, on essaie tellement de la contenir et de la maîtriser, que voilà, il y a quelque chose qui est arrêté. Alors qu'en Inde, ça déborde, ça jaillit, et j'étais donc enseignant au Loyola College, qui est une université jésuite à Madras. Et donc, j'avais des étudiants qui étaient des jeunes indiens, et l'athéisme n'existait absolument pas. Alors, il y avait évidemment, il y avait des chrétiens, il y avait des hindous, il y avait quelques musulmans. Pour eux, l'athéisme était vraiment quelque chose de curieux et d'inconcevable. Donc il y a le sens de Dieu, il y a le sens du mystère. D'ailleurs, je pense que ça détermine aussi quelque chose qui est vraiment propre à l'Inde. C'est un mélange où le tragique, parce que la mort est assez présente en fait, la maladie, la mort, les accidents, puisque c'est aussi ça, c'est le côté négatif. Il n'y a pas la médecine qu'on a, il n'y a pas de sécurité routière comme on l'a, etc. Et de sécurité sociale. Donc la vie est souvent dure, angoissante, et donc il y a ce sens du drame qui est toujours là. Mais tout ça est toujours mêlé d'un certain comique, enfin d'une certaine joie, d'une certaine légèreté, exactement. Comme si finalement, et ça on le sent aussi dans les foules indiennes, comme si les gens sont à la fois des personnes d'ici-bas, mais qu'elles sentent qu'il y a quelque chose en elles qui échappe finalement à toutes ces déterminations et qui a une liberté intérieure. Et c'est vrai que Maître Eckhart le dit, qu'il y a en nous une puissance qui verdoie et fleurit, et où Dieu est en tout l'honneur qu'il est en lui-même. Enfin, il y a quelque chose, il y a en nous une liberté, quelque chose qui est éternellement libre, qui a été, comme dit saint Paul, choisi de toute éternité.
Et qu'on marche vers la rencontre.
Tout à fait. C'est-à-dire que pour marcher vers la rencontre, il faut marcher avec Dieu. J'aime beaucoup cette phrase de la Genèse où Dieu dit à Abraham « Marche en ma présence et sois parfait ». Voilà, « Marche en ma présence et sois parfait ». Je trouve qu'il faut méditer cette phrase, il y a quelque chose de très fort, puisqu'il y a à la fois la présence de Dieu qui est déjà là, qui est toujours là, et à la fois il y a cet itinéraire vers la rencontre, vers les noces, comme vous le dites.